Ce soir, sur Campus Grenoble.
90.8.
Nous ferons ce qui est interdit.
Nous irons ensemble à la buvette.
C'est l'apéro.
Phonie.
L'exception radiophonique.
L'apérophonie.
De la culture. Au shaker et à la cuillère.
Campus Grenoble 90.8.
Il est 18h sur les ondes de Radio Campus Grenoble 90.8 FM et en direct depuis campusgrenoble.org. C'est l'heure de l'apérophonie. Nous sommes ensemble pendant une heure et aujourd'hui, pratiquement exactement un an après la première émission, nous nous plongeons de nouveau dans les méandres du cinéma bis et du cinéma de genre, le cinéma des extrêmes, celui des tours de force, celui de la jouissance, de la profanation, de l'excitation, de ce qui fait vibrer les cordes sensibles. À Grenoble, donc, c'est le Maudit Festival qui met à l'honneur ce cinéma-là, avec une programmation riche en films entre le culte et l'obscur, le dérangeant et le désopilant. Le festival se tiendra cette année du 27 janvier au 1er février dans divers lieux de cinéma de Grenoble, on y reviendra. Et nous recevons ce soir deux membres de l'équipe du festival, tout comme l'année dernière, Sarah Onave, responsable de la programmation, et Lucie Courbière-Manceau de l'équipe décoration et animation. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Et à la technique ce soir, non pas un, mais deux personnes à la technique, Liam et Zoé, qui vont réaliser ces émissions. On les remercie d'avance depuis l'autre côté de la vitre. Alors, l'édition 2025 du Maudit Festival, la sixième édition, elle se plaçait dans le sillon thématique de l'animalité, avec une programmation qui empruntait à tout un bestiaire cinématographique, et on y questionnait un rapport, notamment à une certaine altérité. Cette année, pour la 7e édition, vous avez décidé d'un thème qui pourrait sembler surprenant au premier abord. En tout cas, moi, quand on me l'a annoncé la première fois, je me suis dit « Tiens, étonnant !» Mais après, on comprend mieux. Mais qui, voilà, se révèle en fait dans le prolongement même de ce que c'est peut-être aussi le cinéma de genre. C'est la question même de la marginalité. Et la marginalité qu'on pourrait vraiment prendre là du point de vue de qu'est-ce que c'est que la marginalité en société. Donc une question d'altérité toujours, mais montrée dans ses recoins, dans ses marges, dans ses trames parallèles. Alors si j'aimerais qu'on commence là-dessus, peut-être revenir sur ce qui vous a amené pour cette 7e édition à choisir ce thème-là de la marginalité.
C'est parti d'un constat assez simple qui est que, comme tu l'as très bien souligné, que finalement, le cinéma qu'on défend, c'est un cinéma qui est déjà quelque part à la marge dans l'univers cinématographique, dans l'histoire du cinéma, puisqu'on programme essentiellement des films de patrimoine. Et donc, on est déjà dans une démarche depuis longtemps de mettre en lumière des œuvres, oui, qui sont méconnues, rares, mal comprises ou qui ont été injustement écartées. Donc finalement, il y avait un peu cette idée de faire correspondre le fond et la forme, c'est-à-dire donc des films qui sont en soi à la marge avec finalement des personnages, des communautés à la marge. Ça nous paraissait assez intéressant finalement cet écho entre les deux parties. Et puis de manière un petit peu plus pragmatique, moi il y a un film qu'on programme dans cette programmation qui a été un peu le déclic où je me suis dit « Ah, je veux absolument le programmer ». Qu'est-ce que je peux développer en fait autour de ce film pour avoir une programmation qui le mette quelque part à l'honneur. Alors on aurait pu partir sur plein d'autres choses, mais voilà, finalement c'est parti sur la question de la marginalité et je pense que ça fonctionne plutôt bien, quoi.
Et c'est quel film du coup?
C'est Schizophrénia de Gerald Kirk.
Ah oui, et tout un programme avec Schizophrénia. Bon, on reviendra un peu plus tard dans l'émission sur. Sur la programmation, moi ce que je me suis dit aussi, c'est que d'une certaine manière, peut-être que c'est une pensée facile, moi quand j'y ai pensé, c'est de me dire qu'on... C'est un choix qui n'est pas non plus anodin, si on prend en compte le contexte société actuelle.
Oui.
Et de voir un peu cette à la fois cette espèce d'étonnante... C'est cette dynamique double, un peu étonnante, de la démocratisation des altérités, la démocratisation des marginalités, justement, et en même temps un retour à la bigoterie, une certaine bigoterie, quoi, qui reprend de la puissance, notamment dans le soft power, à travers le soft power américain, qui abonde la programmation des festivals en tout genre. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui, pareil, faisait partie de la réflexion.
Oui, ça faisait partie de la réflexion. Bah, je pense qu'il y a pas mal de films, finalement, qui, notamment dans leur manière de mettre à l'honneur certaines communautés, que ce soit les personnes racisées, les personnes LGBTQIA+, enfin, c'était aussi cohérent par rapport à ce que nous, on défend. On n'est pas un festival politique, mais on, forcément, enfin, programmer des œuvres, c'est forcément un geste un peu politique. Donc il y avait effectivement cette dimension-là. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'au au fur et à mesure du programme du travail de programmation, bah, y a des choses qui sont un peu remontées et finalement, oui, comme tu disais très bien, qui faisaient un peu écho avec l'actualité. Par exemple, on a toujours eu à cœur de programmer des films en provenance de pays les plus variés possibles. Et puis en fait, cette année, c'était difficile de faire l'impasse sur le cinéma états-unien. Enfin, on en a toujours eu, hein, globalement, à part l'année où on a fait une édition entièrement asiatique. Mais cette année, c'était difficile de diluer ce genre de film. Et finalement, on s'est dit, bah, on va l'assumer complètement. On est dans un contexte géopolitique quand même très particulier. On voit ce qui se passe aux États-Unis. Et finalement, c'était intéressant aussi de se dire, bah, allez, on l'assume. Il y a beaucoup de films nord-américains, beaucoup de films en provenance des États-Unis, ce qui montre quelque part que bah, les États-Unis, c'est pas que l'image qu'on essaie, qu'une certaine élite politique essaie de façonner par rapport à son propre pays. Et l'idée, c'était aussi de montrer, bah oui, les États-Unis, c'est aussi un pays où il y a des marginaux, il y a des communautés discriminées, il y a des freaks. Enfin, voilà, c'est aussi tout ça, quoi.
Oui. Et puis, d'une certaine manière, ce qui n'est pas non plus très, très étonnant, le fait qu'il y ait des films américains, c'est que la question de, justement du freak, la question queer même, donc qui se réapproprie cette charge violente pour en faire une force, bah j'ai l'impression que d'une certaine manière elle s'est pas mal développée aux États-Unis, en tout cas culturellement.
Oui, totalement.
Avant de justement aborder un peu plus précisément, comme on l'avait fait l'année dernière, les différents titres qui composent la programmation, et puis un peu essayer de comprendre vos choix, comment les soirées sont organisées, autour de quelles thématiques, parce que la question de la marginalité est vraiment large en plus dans le programme. Enfin, en tout cas, il y a des angles pour observer la marginalité qui sont très variés.
Oui.
Mais avant de parler de ça, peut-être revenir un peu sur les partenariats qui continuent de faire l'identité du Maudit Festival et peut-être de nouveaux partenariats cette année.
On a toujours, c'est vrai qu'on a toujours nos partenaires historiques, donc notamment la Cinémathèque de Grenoble qui est notre principal partenaire, le Ciné Club de Grenoble aussi, Mon Ciné qui continue à nous suivre, j'espère que j'en oublie pas parmi les principaux partenaires, le Ciel aussi. Mais c'est vrai que cette année, par exemple, notamment dans le Off, on a renoué un petit peu avec l'univers de la librairie, puisque ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait d'événements en librairie, et donc là, on organise une exposition à la librairie internationale Peanut Butter Books. On fait notamment le vernissage donc ce vendredi 23 janvier. Donc oui, il y a des petites choses nouvelles, on a des nouveaux sponsors aussi, je sais pas si ça compte dans les partenaires un petit peu quelque part, mais voilà, d'année en année finalement on essaie à la fois de continuer sur notre lancée et puis aussi de nouer des relations avec des personnes qui constituent le tissu culturel grenoblois ou même plus, un peu plus étendu, mais voilà, on essaie petit à petit. Parfois, il y a des choses qui fonctionnent. Parfois, il y a des choses, finalement, qu'on laisse tomber parce que ça n'a pas pu se faire pour telle ou telle raison. Mais oui, on a toujours cette volonté, en tout cas, d'investir des lieux amis pour proposer des choses un peu différentes.
Peut-être qu'on peut revenir un peu, justement, sur le off, même si, en effet, on en parlait avant l'émission, la majorité des choses qui se sont passées en off sont déjà passées. Mais peut-être revenir sur l'historique et ce qui reste encore à venir avant le début du festival. Je crois que ça a commencé dès début janvier.
Oui, on a eu d'abord la séance d'ouverture. Enfin, non, pas la séance d'ouverture, la soirée de lancement. À chaque fois, je me trompe. C'était la soirée de lancement, du coup, au club. avec la séance de The Ugly, film
coréen.
Oui, je ne sais pas pourquoi j'ai douté, mais oui, avec un film coréen. Donc, on a lancé le festival avec cet événement. On a fait la fameuse soirée jeu de rôle au Café des Jeux, comme on avait fait l'année dernière, oui. La maudite soirée où on a fait quatre tables où c'était plein. Donc,
ah oui, ça a bien fonctionné.
Ça a super bien fonctionné. Merci beaucoup d'ailleurs, j'en profite à toutes les personnes qui sont venues jouer avec nous. Donc c'était super. Pareil, on a plutôt fait du jeu de rôle. Bon, déjà de base, c'est un peu à la marge. Bon, bah là, c'était très bien dans la thématique, on va dire. Et qu'est-ce que j'oublie? Ce soir, la séance à 20h des Sorcières d'Aquelarre, donc qui est à Montciné, pas très loin d'ici, vous pouvez même y aller à pied maintenant si vous voulez. Là, on est plutôt sur un film espagnol, argentin, français, un mélange des trois.
Qui se passe au Pays Basque.
Qui se passe au Pays Basque qui parle de femmes qui sont accusés de sorcellerie et qui vont se dire, eh ben, puisqu'on nous accuse de sorcellerie, eh ben, on va être de vraies sorcières.
Faisons de la sorcellerie.
Faisons vraiment de la sorcellerie. Exactement. Et c'est absolument incroyable. Et effectivement, du coup, vendredi, nous avons donc le vernissage de notre exposition qui sera sur la thématique de « À la marge » également. Donc avec que des artistes locaux qui sont eux-mêmes ou elles-mêmes queer ou racisés, etc. On va mettre en avant là aussi des artistes qui porte aussi cette thématique à la marge. Et donc, c'est une sélection d'œuvres de chaque artiste qui seront présents pendant quelques semaines là-bas. Voilà, la librairie Peanut Butter Books. Voilà,
c'est ça.
Qui se trouve vers Alsace-Lorraine.
Si exactement.
Exactement.
Et le vernissage est à 19h, je précise l'horaire.
Tout un programme. J'ai oublié de le faire en début d'émission, j'aurais peut-être dû y penser avant, mais... Je pense que c'est aussi intéressant, vu qu'on a fait cette émission il y a un an à peu près, qui est le festival. J'aurais bien aimé revenir, moi, sur l'édition de l'année dernière. Disais, il y a des choses qui marchent, des choses qui marchent moins. Sans forcément rentrer en détail, mais qu'est-ce que ça a donné, cette sixième édition sur l'animalité?
Ça a bien fonctionné.
C'était incroyable. c'est vrai que c'était incroyable. Déjà, les séances marchent de mieux en mieux, y compris celles qui sont en semaine. Celles qui, au début, marchent un peu moins parce que c'est en semaine, en soirée, même le mardi, le mercredi.
C'était vraiment très impressionnant en termes d'affluence. Et ce qui était très chouette aussi, c'est de voir qu'il y a... On a un public nombreux qui s'est déplacé pour des films absolument inconnus. C'est vrai que l'année dernière, par exemple, pour la séance en partenariat avec le Ciné-Club, on avait un film taïwanais obscur.
Oui. Oh là là.
Et en fait, on a eu une affluence complètement dingue pour un film en semaine inconnu. Et donc, on s'est dit, il y a un engouement du public. Peut-être qu'on a fidélisé des gens, peut-être qu'il y a cette curiosité. Donc, ça fonctionne bien et c'était très, très plaisant. Et puis, globalement, ça a très, très bien marché et l'ambiance était au rendez-vous, je crois.
Et parce que le public te fait confiance maintenant, Sarah.
Pas que moi,
mais oui.
Tout le package.
La programmation, au moins, en tout cas.
C'est vrai quand tu parles du film Taïwanais, tu parles de Fantasy of the Deer Warrior.
Oui, c'est ça.
C'est vrai que j'y étais, moi, cette soirée-là, et c'était très étonnant de voir autant de monde dans la cinémathèque et devant cet objet qui est quand même...
Qui
a une certaine opacité.
Oui, tout à fait.
C'est vrai. Donc, on a même réussi à faire salle comble pour notre séance du vendredi.
Oui, je sais. On a fait plusieurs salles comble,
ouais, c'est vrai.
C'était très agréable.
Mais le vendredi, notamment, en fait, c'était aussi fou, quoi. Bref, merci à vous.
Donc, une vraie confiance dans la programmation, une vraie fidélité. Donc, on espère que ce sera... La même chose, mais vu la programmation l'année dernière était extrêmement très qualitative aussi. Cette année, on y reviendra, mais elle est tout autant, avec des choses assez magnifiques dans le lot. Mais avant d'en parler, on va déjà se faire une petite pause musicale, petite respiration avant de se lancer dans le marathon de la programmation. On fait une pause avec Judeline Chica de Cristal.
Triste. quisiera arreglarlo y conversar, pero poco importa ya.
Vous venez d'entendre Chica de Cristal de Judeline. Alors, c'est pas une musique ambiance maudite, hein, mais j'écoute beaucoup cette chanson en ce moment. Alors, je me suis dit, on va partager ça ensemble. On va passer on va décortiquer, si on veut, la programmation, sans en dire trop sur les films, bien sûr, mais quand même, sur la programmation du Maudit Festival. Avant ça, peut-être revenir un peu sur c'est quoi. L'identité d'une programmation Maudit Festival ?
C'est toujours une vaste question. L'idée de la programmation du Maudit Festival, oui, c'est de mettre en lumière, ce que je disais un petit peu tout à l'heure, des œuvres de patrimoine majoritairement, plutôt de genre, des œuvres, oui, méconnues, rares, étranges, subversives. Ce qu'on dit souvent, c'est que c'est des films qui ne laissent pas indifférents. Donc ça peut être effectivement des films qui bousculent un peu, mais généralement quand on vient au Maudit ou qu'on connaît un peu le Maudit, on sait un petit peu à quoi s'attendre. Alors c'est pas systématique, y a aussi des œuvres beaucoup plus grand public, mais l'idée c'est à la fois de s'aventurer sur des terrains qui sont pas forcément connus du grand public et en même temps de bousculer. Alors parfois ça peut être très agréable d'être bousculé, enfin moi j'adore être bousculé au cinéma, donc j'imagine qu'il y en a qui aiment ça aussi. Mais voilà, c'est un petit peu ça l'idée, quoi. Enfin, dans les très grandes lignes, on va dire. Voilà.
Et dans cette programmation de cette année, c'est vrai que, pour le coup, là, la sélection est particulièrement touffue, j'ai envie de dire. Elle bouscule pas mal. Justement, avec cette respiration à la fin du festival, avec cette séance, les deux séances du samedi qui respirent un peu plus, qui est un peu plus dans la comédie, on va dire.
Ah oui, qui sont fun.
Voilà, on est vraiment fun. Grand public, voilà. On termine la semaine un peu lourde par des séances fun. Donc oui, c'est vrai que cette programmation peut malmener. C'est un peu le contrat social qu'on a avec notre public. Mais on a mis aussi les outils en place, notamment les trigger warnings, etc., pour prévenir.
Tout est indiqué sur le programme. Voilà. Si on devait dire aux dernières personnes un peu sceptiques, un peu frileuses, de dire « Ouh là là, mais qu'est-ce que je vais aller voir ?» Vous ouvrez le programme du Maudit, vous avez des informations sur les films, mais vous avez aussi des informations sur les interdictions, les avertissements, les trigger warnings, comme tu dis. Donc trigger warning, peut-être pour... on peut peut-être revenir sur ce que c'est un trigger warning pour les gens qui...
Alors justement, je vais en parler parce qu'à l'entrée du festival, à l'entrée du cinéma, il y a un petit panneau sur les trigger warnings. Donc les trigger warnings, c'est prévenir les gens de qu'est-ce que le film va contenir et qui sort un peu du cadre classique et qui peut choquer ou marquer, etc. Je sais pas, si par exemple vous êtes arachnophobe, bon ben...
Alors ça, on le mentionne pas.
Ça, on le mentionne pas, mais arachnophobia, bon ben globalement, vous savez que vous allez voir un film avec des araignées, ce serait un trigger warning araignée, voilà, par exemple.
Mais on rentre quand même pas dans ce détail-là. En fait, trigger warning, bah, d'ailleurs on l'a mis sur le programme, on les a appelés en bon français avertissement de contenu. C'est des choses qu'on estime qui peuvent être dérangeantes ou en tout cas qui peuvent provoquer des réactions un peu fortes chez certains personnes qui n'ont pas forcément envie d'être confrontées à ça. Alors bien sûr, avertissement de contenu, bah, comme tu disais, ça pourrait rentrer dans des détails de ah, bah, vous êtes arachnophobe, il y a des araignées. Bon, nous, on a fait le choix de se concentrer que sur certains types de contenus qui peuvent être un peu dérangeants, donc tout ce qui est violence sexuelle, violence physique vraiment extrême, parce que bon, on est le Maudit Festival, donc globalement, il se passe des trucs, il y a quand même beaucoup de meurtres, de violences, mais quand vraiment ça va très loin, on estime que voilà, ça peut être intéressant de le mentionner. Tout ce qui est suicide aussi, voilà, ce genre de choses, c'est disponible à l'entrée du festival. De la salle. Absolument. Et sur le site internet et sur le programme, donc voilà, on peut trouver facilement l'information, quoi.
Voilà, si jamais vous avez peur de certaines choses qui peuvent vous amener pas comme on voudrait que ça vous m'amène, et ben vous pouvez regarder avant de venir à la séance ou regarder à la séance avant la séance le petit panneau, une petite languette, vous soulevez et là il y a tous les détails marqués derrière.
Ça fait donc partie du contrat social.
C'est ça, le fameux contrat social,
les spectatrices du Maudit et le Maudit Festival. N'attendons plus, plongeons-nous dans cette belle programmation. Moi, c'est le genre de programmation qui me fait frétiller. on va prendre le temps d'en parler. On ouvre mardi 27 à 19h avec, et pas n'importe qui quand même, pour cette séance d'ouverture, puisqu'on retrouve Lars von Trier avec un film, un de ses films peut-être pas, enfin parmi les moins connus, je pense, pas trop, mais je pense que c'est un témoin connu, Breaking the Waves.
Oui, tout à fait. Alors, l'idée de cette séance, souvent le mardi, en ouverture, on présente plutôt un film d'un grand auteur. Enfin, jusqu'à présent, ça a toujours été des hommes, donc je dis grand auteur. Mais en même temps, voilà, des films qui rentrent un peu quand même dans l'idée du maudit, donc des œuvres voilà, plutôt subversives ou moins connues. Breaking the Wave, c'est intéressant parce que tu dis, oui, c'est une des œuvres peut-être les moins connues de lui. Bah, c'est un peu paradoxal parce qu'on a eu cette discussion d'ailleurs en interne, parce que c'est un film qui a quand même été présenté à Cannes, qui a eu le grand prix du jury à Cannes, donc c'est quand même pas rien. On se dit, voilà, finalement, ça rentre dans les clous d'une espèce de cinéphilie un peu officielle, mais on l'a un peu oublié. Enfin, il a été un peu éclipsé finalement par d'autres œuvres, bah, notamment Dancer in the Dark, et puis bon, après tout ce qu'il a fait par la suite. Et c'est vrai que au début, j'étais un petit peu hésitante parce que bon, j'adore ce film, mais je me disais, ouais, quand j'ai vu Grand Prix à Cannes, je me dis, ouais, est-ce que c'est vraiment très maudit? Et puis en fait, en discutant avec les autres, on s'est dit, bah, en fait, oui, on l'a un peu oublié, quoi. Oui. Et en même temps, c'est un film, on commence assez fort parce que c'est un film qui bouleverse, quoi. Enfin, c'est un film qui laisse pas du tout indifférent. Donc l'idée, c'est, oui, on commence assez fort, mais c'est un film extraordinaire. Enfin, moi, je trouve ce film, fabuleux.
Non, et puis c'est Lars von Trier, quoi, je veux dire.
Oui, ça devrait... normalement... Si on connaît un petit peu, et qu'on aime...
Voilà.
Oui.
Et qu'on aime avoir des mouchoirs dans sa manche tout le temps, oui.
C'est vrai que Lars von Trier, on pourrait se dire, c'est pas comme tu dis, c'est pas oublié, c'est pas quelque chose qu'il faut faire ressurgir, mais pour autant, le cinéma de Lars von Trier contient en lui quelque chose qui tient de l'identité de ce que c'est qu'un film maudit, quoi.
Ah oui, complètement.
C'est des films qui sont habités en eux-mêmes presque par... quelque chose de maudit.
Oui. Voilà. Bah, c'est vrai qu'il y a toujours une espèce d'odeur de soufre quand même dans ses films. La plupart de ses films sont quand même assez subversifs. Et celui-là, il est intéressant parce que c'est vraiment... Bah oui, c'est c'est un grand drame romantique où on pourrait se dire, bon, c'est pas trop ce qu'on a l'habitude de voir au maudit. Mais c'est Lars von Trier qui le fait. Donc voilà, il y a déjà les codes... c'est pas encore tout à fait Dogme 95, mais il y a déjà un peu les codes de cette mise en scène là. Et en même temps, il traite aussi son sujet d'une manière... qui lui est vraiment très personnel, donc c'est beaucoup plus que ce qu'on peut avoir l'impression que c'est finalement sur le papier. Et c'est vrai que oui, c'est un film passionnant à ce niveau-là, quoi.
Donc ce sera mardi 27 à 19h. Ne ratez aucun film si vous le pouvez. mais celui-là en particulier, là c'est mon avis à moi, après j'ai pas tout vu dans la programmation, notamment le film qui sera présenté le mercredi 28, mercredi soir à 19h dans le cadre de la séance avec le Ciné Club, qui est donc le film Ganja et S de Bill Gunn. Et là on va parler de beaucoup de choses, puisque déjà tu pourras nous parler du film, mais aussi de la question de la Blaxploitation, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, alors Ganja and S, c'est un film assez particulier, parce qu'effectivement c'est un film de 73, c'est un film d'auteur afro-américain. Bill Gunn, il est afro-américain, il tourne son film avec une équipe quasi exclusivement afro-américaine, et en même temps, enfin voilà, on est en plein dans le moment de la Blaxploitation, donc ce moment de l'histoire du cinéma aux États-Unis où voilà, où on va avoir un certain nombre effectivement d'afro-américains qui vont se saisir du cinéma pour exprimer, enfin voilà, pour faire des films vraiment avec, par et pour des Afro-Américains. Mais souvent, la Blaxploitation est plutôt associée à l'idée de films un peu d'action, avec effectivement des héros, des héroïnes noires. Et là, on est un peu à la frontière de la Blaxploitation, parce qu'on est vraiment plus dans quelque chose qui serait de l'ordre du film d'auteur, même très expérimental. C'est un film complètement atypique. C'est un film de vampire, mais en même temps, à aucun moment on prononce le mot vampire. Donc on est vraiment sur, en fait, une espèce de forme de fantastique, d'horreur, mais qui, avec des codes qui sont pas du tout ceux qu'on attend. En fait, Bill Gunn, c'est quelqu'un qui est très influencé par le cinéma de la modernité européen. Donc il est influencé par Godard, Antonioni. Et alors on se dit, mais qu'est-ce que ça vient faire dans un film de vampire, finalement ? Et en fait, si, c'est complètement ça. Donc c'est un film vraiment très, très inclassable. En même temps, c'est un film sur l'identité afro-américaine, et notamment sur les racines africaines. Mais en même temps, c'est un film qui est un peu à, je vais pas dire à énigme, mais c'est pas du clé en main, on nous mâche pas un discours, au contraire, tout est affaire d'ambiance et presque d'expérience un peu sensorielle. C'est un film vraiment très intéressant, très, très déstabilisant aussi, parce que c'est... à part peut-être, quelques œuvres un peu, justement, d'autres auteurs afro-américains de cette période, je trouve que c'est difficile de le raccrocher à des choses un peu connues. Et c'était important pour nous de présenter un film comme celui-ci, qui est un film plutôt rare, d'ailleurs. Donc voilà, ça va être une expérience très intéressante.
Est-ce que ce sera un peu l'ovni de cette 7e édition du festival ?
Pas mal, ouais, je pense qu'on peut dire ça, ouais, complètement. Je pense que le public qui n'a jamais vu le film ou qui connaît pas forcément cette période-là, clairement, je pense qu'il peut pas du tout savoir à quoi s'attendre, quoi. C'est, voilà, ils vont vivre quelque chose d'un peu inédit en termes d'expérience cinématographique, ouais.
Donc là, le sens de la marginalité prend tout son sens, j'ai l'impression, avec ce film, puisque d'un côté, on a un objet étonnant.
Oui.
Et en plus, qui appartient plus ou moins à un courant, une histoire du cinéma.
Oui.
La Blaxploitation, c'est une histoire du cinéma qu'on connaît pas, en fait, à peine.
Très mal.
Très mal.
Oui.
On a fait ressortir le cinéma queer, par exemple. Il y a des choses qu'on connaît mieux maintenant, mais j'ai l'impression que ce cinéma-là, il reste. Moi-même, je pourrais pas citer vraiment de films de ce courant-là, quoi.
Bah, en fait, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'avais à l'esprit, dès le départ, je m'étais dit, il faudrait qu'on programme un film, effectivement, de cette période, de cet ensemble de cinéastes. Et sans rentrer trop dans les détails, bah, en fait, il s'est trouvé que moi, j'ai été confrontée à quelque chose qui peut expliquer peut-être pourquoi on connaît assez mal ces films, c'est qu'ils sont très mal distribués, en fait. On a beaucoup de mal à trouver les droits, les copies. Alors, je sais qu'il y a d'autres festivals amis ailleurs qui ont pu faire des petites rétrospectives autour de ces œuvres-là, mais chapeau, parce que franchement, c'est pas des films faciles à programmer du tout, quoi. Enfin, vraiment pas, quoi.
Oui, ça permet de faire un petit rappel sur la programmation et la distribution. On programme pas des films à l'envi. On est aussi très dépendant de tout un système.
Oui.
Qui est celui de la distribution française, internationale.
Des droits, des copies, oui, tout à fait.
Des gens qui ne répondent pas et qui nous laissent.
Exactement.
Pour la troisième soirée, j'ai envie de dire qu'on est sur des choses qu'on connaît mieux, mais peut-être parce que c'est culte dans une certaine niche du cinéma de genre, avec une soirée Grindhouse en double feature,
Alors, c'est pas encore Grand Axe.
C'est pas la Grand Axe, pardon. Je mélange les pinceaux. Mais c'est deux films, un à 19h et un à 21h30. Donc, avec 21h30, Schizophrénia, le film qui a donné le thème à cette édition. Et à 19h, Henri, Portrait d'un serial killer. Deux films où on est dans la tête de serial killer.
Oui, complètement. Et là, justement, l'idée, c'est... comment dire, c'est de... je ne vais pas dire de surfer, mais en tout cas, on a profité un petit peu de l'engouement autour de la figure du serial killer, parce qu'on ne va pas se le cacher, il y a quand même un intérêt, je pense, assez prononcé ces dernières décennies autour de cette figure-là dans la culture populaire. Mais en proposant quand même des films qui ne sont pas forcément très connus du grand public, qui effectivement, comme tu disais, qui sont peut-être plus dans une certaine niche cinématographique, et en même temps qui sont à la fois deux films absolument passionnants sur la figure du serial killer, et en même temps, deux films qui vont très loin quand même dans ce qu'ils racontent et dans ce qu'ils montrent de la réalité des serial killers. Et je trouve que presque, comment dire, dans Henri, Portrait d'un serial killer, c'est assez évident, mais même dans Schizophrénia, en fait, je trouve que c'est, sans faire du moralisme de bas étage, mais c'est quand même des films qui... c'est quand même des expériences cinématographiques très intenses. Oui. Et en même temps, quelque part, c'est peut-être des films qui questionnent aussi notre engouement autour des serial killers. Parce que franchement, après avoir vu ces deux films-là, on peut peut-être se dire, oui, il y a peut-être un truc... c'est des films qui mettent vraiment à l'honneur le côté malsain, justement, des serial killers et pas le côté glamour, figure un peu charismatique. Non, là, vraiment, on se prend en pleine face, finalement, ce que c'est que... Oui,
certaine forme de réalité.
C'est ça, exactement. Ouais. Mais ça reste c'est des films absolument passionnants à ce niveau-là, mais qui questionnent aussi, oui, notre rapport, je pense, aux images par rapport à tout ça. Ouais.
Mm. Parce que contrairement à ce qu'on peut avoir depuis des années, parce que, en fait... Le serial killer a toujours été une figure romantisée un petit peu dès le début, même par le public, alors un public féminin aussi, mais voilà. Et du coup, je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas regarder certains films de serial killer parce qu'ils n'aiment pas le fait que ça soit romantisé, le fait qu'on montre ces figures comme « Ah ouais, mais quand même, il ou elle était beau, belle », enfin voilà, ce genre de choses. Et là, on peut dire qu'on n'est pas du tout là-dessus, quoi. Pas du tout sur une figure romantisée, sur une figure qui est montrée quand même sous un jour un peu sympathique. Non, pas du tout.
Voilà. Oui, on est sur presque de l'anti, si je veux faire un peu raccourci, sur de l'anti-Netflix, c'est-à-dire...
Oui, c'est voilà. Excellent exemple.
Et désamorce non seulement la figure, enfin cette figure-là du serial killer, mais aussi toute l'esthétisation autour de toute la mise en scène, un certain rapport à la mise en scène de ces histoires-là. J'ai l'impression que c'est même davantage le cas pour, mais c'est un avis personnel, hein, sur Henri, Portrait d'un serial killer, qui a vraiment cette caméra à hauteur en permanence, quelque chose qui très froidement nous raconte ce quotidien, quoi.
Oui.
Le quotidien de... Puis dans un Chicago en pour décrépitude.
Complètement.
Peut-être que Schizophrénia a presque un côté, je vais dire psychédélique, mais le mot est fort, mais un côté.
Esthétique.
Dans la mise en scène, qui peut créer quelque chose de. Qui permet de prendre du recul, quoi. Même si le film est une expérience particulière.
Parce qu'on est vraiment dans la tête du serial killer.
On est dans une intensité, voilà. Et ce que je disais hors antenne, c'est que je paierais cher pour voir la tête des gens qui auront fait les deux soirées d'affilée. Mais allez-y, faites-le. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup d'expériences dans votre vie comme ça, de double film avec une intensité pareille.
Oui.
Je sais pas si on l'a dit, mais Henri, Portrait d'un serial killer, donc c'est John McNaughton. C'est un film américain, donc. Et alors que Schizophrénia, c'est un film autrichien de Gerald Karl. Et peut-être important de préciser que c'est aussi le film qui peut-être a le plus influencé Gaspard Noé.
Oui, tout à fait. Oui. Notamment pour Seul contre tous et Irréversible. Oui, je crois qu'il disait qu'il l'a vu une quarantaine de fois à peu près, Schizophrénia. Bon, je pense qu'il faut déjà...
Ça explique peut-être des choses.
Ça explique deux, trois trucs. Mais oui, c'est une grosse influence de Gaspard Noé. Donc ça peut être aussi une porte d'entrée, si on aime son cinéma, de justement de remonter un petit peu à la source.
Oui. Quelles sont ses influences?
Et puis c'est vrai que c'est au-delà du sujet. C'est vrai que c'est un film qui a une mise en scène complètement... dingue, en fait, dans justement l'idée de créer une forme d'immersion. C'est vraiment un film passionnant à ce niveau-là. Ouais.
Nous passons à la soirée suivante, si je ne dis pas de bêtises, la quatrième soirée. Soirée paraphilie. Alors, on va revenir sur ce mot que je ne connaissais pas.
Attention, paraphilie. deux points, trois nuances de kink.
Trois nuances de kink.
Ça éclaire un peu.
Ça éclaire un peu le mot paraphilie. Avec trois films. Hein. Il y a toujours cette soirée du vendredi avec trois films,
ouais.
Avec un film à minuit à la fin qui clôt la soirée. Et cette fois-ci, on va revenir. Je cite rapidement les titres. On va revenir sur les uns et les autres après. Crash de David Cronenberg. Bon, celui-là un peu plus connu. Peut-être le titre le plus connu de la programmation, j'ai envie de dire.
Peut-être, oui.
La secrétaire et Kist. Alors, paraphilie, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est la paraphilie ?
Alors, paraphilie, c'est un terme un peu politiquement correct, enfin neutre, on va dire, pour désigner tout ce qui est déviance sexuelle. Déviance sexuelle, c'est un peu plus chargé en termes de moralité. Donc, c'est tout ce qui est, forme d'attirance sexuelle qui, on va dire, qui dévie un petit peu de la norme. Donc, c'est pour ça qu'on a précisé trois nuances de kink. Bon, c'était un petit clin d'œil. Un film qu'on ne programme pas.
Et qu'on ne programme jamais.
Mais voilà, c'était l'idée d'explorer un peu l'obsession sexuelle, mais dans ce qu'elle peut avoir d'un peu dérangeant, enfin plus ou moins dérangeant, hein, selon les films. Voilà, on va le dire très clairement comme ça, quoi.
Donc, le premier, celui qui couvre la soirée, pareil, tout comme Lars von Trier, une espèce de figure du cinéma. J'allais dire d'horreur, mais ça serait un peu faire un gros raccourci. Mais en tout cas, du cinéma plus installé, quoi, plus hégémonique, avec l'adaptation du roman de Ballard, Crash. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Oui, bah, c'est un film... là, c'est pareil, je trouve qu'il y a quelque chose qui se répond un peu avec Breaking the Waves, parce que bah, déjà, les deux films ont été tous les deux sélectionnés à Cannes la même année, donc en 96. Donc on pourrait se dire, bah, là, pareil, film sélectionné à Cannes. En plus, il a eu le prix du jury pour Crash. Bon, bah, film primé à Cannes, voilà, ça... encore une fois, sur le papier, ça ressemble pas trop à un film qui rentre, on va dire, dans le fil conducteur de notre programmation. Mais ce qu'on a peut-être un peu oublié, c'est que Crash, quand il a été présenté à Cannes, ça a été un immense scandale. Bon, ça a été un peu le scandale, il y a toujours un petit scandale à Cannes. Mais ce film-là, il a vraiment fait parler. Il a clairement divisé, voire il a connu une forme de censure, je sais, notamment au Royaume-Uni, où il y a une partie des cinémas qui ont clairement refusé de programmer le film, parce que c'est un film qui... Oui, c'est Cronenberg, en 96, il est déjà un peu installé, mais bon, l'univers de Cronenberg, comme tu disais, il est déjà un peu... Enfin, déjà, il est très dans l'esprit du maudit, c'est un univers pareil, hein,
qui est à la marge.
Oui, voilà, qui est à la marge, effectivement, qui explore beaucoup ces sujets-là, et Crash, ben, c'est à la fois une œuvre un peu emblématique de sa filmographie, mais en même temps, on s'était dit, bah, ça... C'est la bonne séance le vendredi 19h pour peut-être le faire redécouvrir à une audience qui ne le connaît pas, peut-être pas née non plus au moment où le film est sorti. Et je trouve que c'est un film qui a pas perdu quand même de sa charge, on va dire, subversive. Enfin, il y a un côté quand même très dérangeant dans ce film.
C'est le mot qui est...
Et parce que là, du coup, si on parle, donc chaque film de cette soirée présente une paraphilie particulière, là, on est sur un couple qui se découvre une passion sexuelle pour les accidents de voiture.
Voilà. Oui, c'est bien de le dire. Voilà,
c'est le kink de ce film, c'est ça.
C'est ça.
C'est pas des gens qui aiment faire du tuning, non. Je précise aussi.
C'est ça, c'est les accidents de voiture, tout ce qui est mutilation liée à des accidents de voiture. Donc il y a un côté, oui, quand même très dérangeant. Et puis même dans la mise en scène, il y a quelque chose, je trouve, qui va, même encore aujourd'hui, qui va assez loin quand même dans ce qui est montré, dans l'ambiance aussi qui est très singulière du film. C'est vraiment intéressant. Je vais dire ça de tous les films.
Mais oui, bien sûr.
Mais oui, non,
Moi, je voudrais juste revenir sur le scandale qu'il y a eu à Cannes. Si je me souviens bien, il y avait eu une engueulade entre David Cronenberg et...
Ah oui, et Francis Ford Coppola, voilà. Qui était donc président du jury à ce moment-là. Bon, clairement, il a voté contre le fait de lui donner le prix du jury, mais... Voilà, le film a quand même eu le prix du jury et apparemment Cronenberg et Coppola sont embrouillés depuis cette époque-là parce que vraiment Coppola était absolument outré qu'un film comme ça existe. Donc voilà,
c'est étrange, ça pose parfois quelque chose. Certains cinéastes comme ça qui Les deux autres films sont des films beaucoup moins connus, hein, je ne crois pas me tromper en disant ça. La secrétaire de Steven Sheinberg et peut-être le film qui m'intrigue le plus sur cette prog, Kist de Lynn
Stopkevich. Je crois que ça se dit comme ça.
Peut-être quelques mots sur ces deux films.
Ah, oui. Alors, bah justement, on parlait du fait que, voilà, c'est vrai que dans la programmation cette année, il y a quand même beaucoup de films, c'est vrai, avec, qui sont des films assez dérangeants, qui nous sortent de notre zone de confort. Ça, on l'assume complètement. Mais c'est vrai que dans cette soirée paraphilie, bah, finalement, le moment un peu de...
Ouh, peut-être, de respiration, c'est La Secrétaire.
C'est plus ouais. La Secrétaire qui est un film... qui tout en traitant d'un sujet, enfin de sujets assez difficiles, donc notamment bah, la santé mentale, enfin la difficulté à faire relation avec les autres, etc. Bah en fait et par certains aspects, un film quand même assez léger. Enfin c'est un film passionnant et vraiment très très profond sur, enfin dans ce qu'il raconte, oui sur le, bah finalement qu'est-ce que c'est que d'être à la marge, comment est-ce qu'on peut trouver sa place, comment on peut parvenir à s'épanouir même quand on part avec bah, un peu des difficultés dans la vie. Mais c'est un film qui malgré tout, oui, va vers quelque chose d'un peu lumineux. Je vais pas trop spoiler. Oui. Et donc c'est un film, oui, qui parle des relations BDSM.
Ça fait le kink de ce film, c'est le BDSM.
Voilà.
Et donc c'est un peu pour ça qu'il y a trois nuances de King, parce qu'on s'amusait à se dire que ben, ce film, c'est un 50 nuances degrés, mais mieux qu'un 50 nuances degrés. Voilà.
C'est 50 nuances degrés, mais bien.
Mais bien, voilà. Mais bien. C'est vraiment
trop
mieux.
Bien. Enfin,
vraiment.
Posez votre ouvrage que vous êtes en train de lire, les 50 nuances degrés. Allez
ah oui, voir non. Le film. Allez voir La Secrétaire, c'est absolument incroyable. Oui.
Oui, c'est un excellent film. Ouais.
Vraiment. Et qui, du coup, est aussi dans la prog parce que. Bah, quand il est passé en France, il est passé relativement inaperçu. Et
c'est un film quand même qui a eu une sortie nationale en France.
Il a eu une sortie en France à l'époque, mais il a été oublié et puis surtout, il n'a pas eu tant de succès que ça, en tout cas à l'époque.
Non, et c'est vrai que c'est assez étonnant. Alors peut-être que l'époque n'était pas prête, entre guillemets, mais c'est vrai que de voir que finalement le film... il sort 13 ans avant bah, justement l'adaptation cinématographique de 50 nuances degrés, 10 ans avant le roman. On se dit bah oui, peut-être qu'il y a un truc qui a pas marché à ce moment-là, alors que vraiment c'est je crois, enfin il semblerait que ce soit même une des sources d'inspiration de 50 nuances degrés, donc c'est quand même dommage de voir que la copie a si bien fonctionné et que finalement l'original qui était aussi riche est passé un peu à la trappe, quoi.
D'oublier, ouais. On a laissé cette œuvre un peu séminale en arrière. Et donc, Kist, qui est l'un des trois films que vous pourrez voir en copie 35 mm.
Oui, tout à fait.
Issu des collections, celle-ci de la Cinémathèque de Nice.
Oui, tout à fait.
Et vous avez la chance de pouvoir voir des films en 35 mm en salle.
Oui.
Et en plus Kist.
Et en plus Kist, oui. C'est vrai que là, ça faisait deux éditions qu'on n'avait plus de films en copie 35 parce qu'on n'avait pas réussi à en trouver pour les films qu'on voulait programmer. Et puis là, cette année, d'un coup, paf, on en a trois. Bon, c'est génial. On est très contents. Kist, eh ben, c'est, là, pour le coup, c'est vraiment la rareté de la programmation. Je disais à Lucie, bon, on ne peut pas trop s'étendre sur ces questions-là, mais on a clairement bataillé pour avoir ce film. C'est le moins qu'on puisse dire, à tous les niveaux. mais c'est un film incroyable sur la nécrophilie, donc il faut poser quand même tout de suite le sujet.
Kink du film.
Voilà, exactement.
La nécrophilie.
C'est ça. Et... c'est parti du, bah justement d'une envie de, ça paraît un peu étrange dit comme ça, mais de programmer un film autour de la nécrophilie, parce que on s'est dit, bah quitte à programmer un film à minuit dans une idée de progression, bon bah finalement qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus tabou, bah peut-être la nécrophilie, enfin.
Oui, c'est ça.
Et en fait bon, il y avait d'autres potentiels candidats pour cette séance, mais ce film, il est justement, c'est un film qui déjoue un peu les attentes par rapport à son sujet. Alors c'est pas un, on est d'accord, hein, c'est pas un sujet très facile, mais plutôt que d'aller vers quelque chose d'un peu outrancier, d'être dans la surenchère, d'une espèce de monstration un peu voyeuriste, c'est un film qui fait tout l'inverse. C'est un film qui est d'une très grande grâce, d'une incroyable poésie et qui est vraiment vraiment dans la sensation, vraiment dans l'idée de très très pudique par rapport à son sujet, mais sans l'éviter non plus. Enfin, je veux dire, on nous cache pas que voilà, que le personnage principal, donc qui est cette jeune femme, Sandra, est nécrophile, hein, elle s'en cache pas, elle s'en cache pas en tout cas vis-à-vis de certaines personnes dans le récit, mais voilà, c'est un film qui est assez bouleversant en fait, enfin, ça paraît assez étonnant dit comme ça, mais c'est un film très très fin, qui est vraiment oui une rareté, et que voilà, si vous avez un peu la forme encore à minuit, vraiment restez parce que ce film là c'est vraiment un film sublime et pour le coup qu'on reverra pas de sitôt parce que difficile à programmer et à ma connaissance il y a eu qu'une édition DVD en anglo-saxonne, voilà, le film est quasiment introuvable globalement,
quoi. Donc c'est la rareté à avoir, à ne vraiment vraiment pas louper. Oui. Et c'est intéressant aussi de rappeler justement que c'est pas parce qu'on fait du cinéma de genre et qu'on parle de sujets tabous ou violents, etc., qu'on peut pas faire des films bouleversants et,
tout à fait.
Et sensibles.
Oui.
Le cinéma de genre, ça peut être un cinéma sensible et
ah mais bien sûr.
Fin, voilà.
Bien sûr. D'ailleurs, voilà, si ça peut rassurer des personnes, parce que c'est vrai qu'on peut se dire, la nécrophilie, d'où j'aurais envie d'aller voir un film là-dessus, justement parce qu'il y a ce côté tabou, etc. Et puis surtout, bah, c'est la nécrophilie, quoi. Pourquoi j'irais voir quelque chose comme ça ? Bah, justement, comme dit Sarah, on est sur de la sensibilité, on est sur un film plein de grâce. Et en plus, c'est vraiment une perle rare. Si on le programme, ce n'est pas pour rien. Donc vraiment, n'hésitez pas à venir, quoi.
Faites-nous confiance.
Ce sera vendredi à partir de 19h pour Crash, 21h30 La Secrétaire, minuit pour Kist. Et le samedi, c'est la carte blanche. Cette année, c'est la carte blanche à What the Fuck Off.
C'est ça.
Pour une séance de court-métrage d'animation.
Oui. En fait, What the Fuck, au départ, c'était un programme dans le cadre du Festival international d'animation d'Annecy, qui avait d'ailleurs un très, très, très grand succès. Et puis, bon, pour diverses raisons qu'on n'évoquera pas ici, le programme s'est séparé finalement de cette institution qui est le Festival d'animation d'Annecy et vole aujourd'hui de ses propres ailes. Donc, c'est un programmateur et une programmatrice donc, qui sont aux commandes. Et maintenant, ils sont un peu invités, ils sont un petit peu en freelance finalement, et ils programment à l'invitation de divers festivals un peu partout dans le monde d'ailleurs. Gros succès, et nous, comme on les connaît un petit peu, on s'est dit, c'est l'occasion de les inviter et de partager ça avec le public grenoblois parce que justement, c'est un programme qui déjoue toutes les attentes par rapport à l'animation. Non, voilà, c'est pas du Disney, c'est pas du Ghibli, là c'est vraiment le côté déjanté de l'animation, tout est possible, c'est complètement fou, donc voilà, c'est vraiment une chance de pouvoir les accueillir.
Et ce sera donc à 17h, juste après le goûter.
Alors,
donc,
c'est ça.
Ne mangez pas trop chargé. Alors, on va voir, je ne sais pas, je ne connais pas la teneur du...
On sait jamais.
La teneur de la programmation,
dit,
mais...
On a dit samedi, c'est cool,
Ah bah là, c'est pas nous fun. Qui programmons, donc...
Oui, on sait pas, remarque.
Et ça nous permet d'enchaîner sur le reste de la soirée du samedi. Et pour le coup, si je ne me trompe pas, c'est bien la soirée Grindhouse.
Oui, tout à fait.
Grindhouse, ce que ça veut dire, c'est un ticket pour voir deux films. Ce n'est pas le cas des autres soirées, c'est un ticket par film. Et donc on arrive donc sur cette phase plus légère, plus comique avec But I'm a Cheerleader de Jamie Babbitt et Hairspray de John Waters, qui est peut-être la troisième figure, même si elle est peut-être moins connue que Lars von Trier et David Cronenberg, une troisième figure un peu hégémonique dans l'histoire du cinéma. Alors dites-nous un peu ces choix-là.
Eh bien, justement, après une semaine riche en émotions fortes, on va terminer avec une soirée beaucoup plus festive, beaucoup plus ouverte. Là, je pense que tout le monde peut un peu s'y retrouver. Donc, c'est deux films qui sont très... donc, plutôt des films queer, voire carrément queer.
Oui, d'ailleurs, Happy Go Queer.
La soirée Happy Go Queer, ça dit tout. But I'm a Cheerleader, c'est un film sur la question de l'homosexualité, et notamment des thérapies de conversion à l'hétérosexualité pour les jeunes gays et lesbiennes. Donc c'est un sujet sur le papier pas très fun.
Oui, non, c'est pas drôle. Hein.
Alors qu'en fait, le film est une vraie comédie slash comédie romantique. C'est un film à la fois très léger dans son... qui parle de sujets graves mais avec légèreté et avec intelligence, et qui en même temps est très très émouvant. c'est un film, oui, ultra camp. Il y a une mise en scène assez incroyable, très pop, très coloré. Enfin, voilà, avec une espèce de défilé aussi de guest stars. Je l'ai revu il y a pas longtemps et j'étais genre, mais j'avais complètement oublié qu'il y avait un tel. Enfin bon, c'est incroyable.
J'ai vu qu'il y avait RuPaul.
Oui, RuPaul, oui, tout à fait.
Maintenant, ouais. Il est très 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 connu.
Exactement, oui. Et bah, justement, qui est assez drôle parce qu'il joue un peu l'instructeur du centre de conversion à l'hétérosexualité, qui est un peu l'ancien gay. Reconverti et qui montre que on peut y arriver,
ça marche
voilà, bon bref, non spoiler pas du tout, mais voilà, c'est assez drôle quoi, enfin c'est même très drôle et c'est un film qui est jamais sorti en France, donc on est très contente de pouvoir le passer.
D'ailleurs, juste pour les personnes qui ne connaissent pas, est-ce que tu pourrais expliquer le terme camp?
Camp, oui, c'est une certaine esthétique de l'outrance très associée justement à la culture queer, donc l'idée d'en faire des tonnes, l'idée de quelque chose d'un peu artificiel,
coloré,
voilà. Les deux films hein, sont vraiment dans cet esprit-là, donc c'était aussi intéressant de les programmer ensemble. Ouais.
Et le deuxième film, donc, du roi du trash, qui se calme un peu avec Hairspray, a priori.
Complètement,
John ouais. Waters, Hairspray, attention, qui n'est pas la version de 2007.
Oui.
Voilà, c'est bien la version originale du film.
Exactement.
De 1988, du coup.
Donc, sans John Travolta, effectivement, voilà. Mais ça fonctionne très, très bien. Et oui, effectivement, John Waters, il est connu pour des films quand même assez trash. Et celui-là, vraiment très grand public. Bon, il perd pas de son humour caustique, hein, mais voilà, c'est vraiment accessible à tout le monde. Et c'est vrai que c'est un film qui est pas très drôle, qui parle pas forcément de la question, bah, justement, qui met pas forcément en scène, pardon, des personnes LGBTQIA+, mais c'est l'esprit général qui est très très queer. Enfin, John Waters, de toute façon, ses films, ils transpirent le queer, et c'est très drôle parce que bah, c'est un film dans lequel il raconte qu'il a mis un peu en scène sa jeunesse, où on se dit mais c'est vraiment too much, et il dit non, c'était vraiment comme ça, les jeunes blancs, voilà, qui pour embêter leurs parents écoutent de la musique afro-américaine, et puis toute la question de la ségrégation et les coiffures improbables, les danses improbables, enfin voilà, c'est très festif et c'est très sympathique quoi.
Ça permettra de finir en beauté non pas tout le festival puisqu'il reste deux séances le dimanche, une séance jeune public qui aura lieu à Montciné avec le petit monde de Bahador et le documentaire, parce que c'est aussi maintenant tous les ans là, pareil hein, c'est le documentaire au ciel, Les Indiens à Hollywood, une tragédie américaine. Alors peut-être en quelques mots très rapides, j'avais dit qu'on aurait le temps de parler de tous les films. Cette année, c'est un peu mieux que l'année dernière, mais on doit quand même se dépêcher.
Oui. La séance jeune public, en fait, c'est un film collectif. Donc il y a trois courts-métrages en fait dans le cadre de ce programme, qui sont trois films d'animation iraniens. Donc l'idée, c'était de programmer pour le jeune public, voire le très jeune public, puisque c'est à partir de 3 ans, et des œuvres d'un cinéma qu'on connaît mal. Enfin, déjà, le cinéma iranien, en général, on le connaît assez mal, enfin, à part à travers quelques auteurs. Mais le cinéma d'animation iranien, je pense qu'il est quasiment invisible en France. Donc voilà, c'était l'idée de mettre en lumière ce cinéma. Et le documentaire de clôture, c'était pour continuer un petit peu sur cette réflexion autour des personnes racisées, et comme on avait beaucoup de films en provenance des États-Unis dans la programmation, on s'est dit, on est tombé sur ce documentaire et on s'est dit, finalement, les Amérindiens, les Amérindiennes, c'est un peu, celles et ceux qu'on oublie un peu dans justement quand on parle de la société aux États-Unis, et alors que ils sont un petit peu au fondement quand même de l'histoire de ce territoire. Et l'idée, c'est justement de parler de leur représentation dans le cinéma hollywoodien, et aussi a fortiori leur place dans la société aux États-Unis. Ouais.
Ça fournit un peu un contrepoint aussi, peut-être cette idée-là. Le cinéma américain est très présent. On va fournir un contrepoint en disant, attention.
Il y a ce qu'on ne voit jamais.
Voilà. Et qu'est-ce que c'est que le cinéma américain aussi? Enfin, il y a ce versant-là dans le cinéma américain, donc c'est très intéressant. Et donc, je reprécise que ça se passe au ciel. Hein. C'est la seule séance qui aura lieu au ciel.
Oui.
Et la séance jeune public pour le petit monde de Bahador, c'est à Montciné. Ce ne sera pas cinéma Juliette Berthaud. Il nous reste quelques minutes peut-être pour aborder peut-être les invités oui. du festival. Je ne sais pas s'ils sont mentionnés sur le programme.
Non, ils ne sont pas, sur le programme.
Mentionnés. Voilà, donc si on peut revenir peut-être sur les personnes, les invités qui vont présenter des séances, accompagner les films.
Oui, pour Breaking the Waves, on reçoit Jean-François Dikeli, qui est journaliste à Culture au Point et au Petit Bulletin Lyon, parce qu'à Lyon, ils ont encore un petit bulletin. voilà, qui est un très grand cinéphile et un excellent critique lyonnais, donc qui vient pour présenter ce film qui, visiblement, il adore, donc je pense que ça va être très, très intéressant. Pour Ganja NS, on reçoit Jean-Michel Barbeau qui travaille à la Belle Électrique, qui est un de nos partenaires. Alors, pas pour l'édition, mais on a travaillé un petit peu ensemble dans le cadre de la programmation d'un événement off à l'automne. Donc, l'idée, c'était justement de continuer à créer des liens avec cette institution qui est la Belle Électrique et qui, pareil, lui a un amour visiblement immobile modéré pour ce film, donc il pourra aussi animer le débat qui suivra la projection de Ganja NS. On a Aurélie Dos Santos qui est un peu notre pilier, notre marraine, qui est là tous les ans, voilà, qui est une figure un peu incontournable de, j'ai envie de dire, de la scène culturelle grenobloise, qui va venir présenter les films du jeudi et les deux premiers films du vendredi. On aura donc le programmateur et la programmatrice de What the Fuck Off pour la séance court-métrage. Et le samedi, on reçoit des personnes du festival Vue d'en Face, puisqu'on est en partenariat avec eux pour cette séance Happy Go Queer.
Festival Vue d'en Face, qui est donc le festival du cinéma LGBT. Plus, qui a lieu, je ne sais plus à quelle période de l'année.
Septembre-octobre, je crois. Oui, à la rentrée. Au club, tout à fait.
Au club, voilà. Pour terminer, peut-être vraiment en quelques mots, je voulais vous demander, sur cette programmation-là de cette 7e édition, votre coup de cœur.
Lucie.
Ah oui, d'accord. La secrétaire.
La secrétaire. Ah oui, d'où ?
La secrétaire. Ça t'étonne ?
En fait, je m'attendais à Kist.
Alors oui, mais alors le problème, c'est que je ne l'ai pas encore vu.
Ah, oui.
Enfin, je l'ai pas, voilà. J'espère le découvrir sur le grand écran, du coup. Mais du coup, la secrétaire, je l'ai vue. Et en fait, quand Sarah nous a parlé du thème à la marge, tout de suite, on s'est dit, mais la secrétaire, faut trop qu'on arrive à le passer. Parce qu'on l'avait découvert quelques mois avant. Et du coup, on s'est dit, mais c'est parfait, enfin, il faut trop qu'on le mette dans la thématique.
C'était une évidence.
Ah ouais, c'était une évidence. On s'est dit, oh, il est peut-être. En plus, encore une fois, il était passé en France, mais tout le monde était passé à côté. Vas-y, on le programme, quoi. Et donc, c'est trop un plaisir de programmer ce film.
Et pour moi, c'est Kist, justement. Alors. Il y a une autre personne de l'équipe avec qui adorait ce film aussi. Et. On en est venu un petit peu à cette conclusion un peu étrange. On s'est dit, mais toi aussi, t'as remis un peu en question toute ta vie après avoir vu ce film. Alors non, on n'est pas devenu nécrophile, hein. Oulala, non, surtout pas. Mais c'est vrai que c'est dans ce qu'il raconte du rapport à la mort en général, je trouve. Je trouve que le film est vraiment bouleversant. La mise en scène est incroyable. Et justement, ce que j'avais mis un petit peu dans le programme, il me semble. On parle beaucoup de male gaze, female gaze ces dernières années, et vraiment c'est un film très très female gaze. On sent que c'est écrit par une femme, mis en scène par une femme, enfin il y a vraiment une approche très sensible et c'est un film bouleversant, ouais, vraiment.
Très bien, alors ça donne encore plus envie d'y aller. Merci Sarah, merci Lucie de nous avoir accompagnés sur cette apérophonie. Le Maudit Festival, la 7e édition, ça aura lieu du 27 janvier au 1er février, notamment au cinéma Juliette Berthaud, donc à la Cinémathèque de Grenoble, mais dans plein d'autres lieux. On vous invite à aller consulter leur site. Et si vous voulez entendre un peu plus, revenir sur tout ce qu'on s'est dit dans cette émission, n'hésitez pas à la retrouver en podcast sur campusgrenoble.org. Merci Liam et Zoé pour la réalisation de cette émission. Et on se retrouve au Maudit Festival à partir de mardi prochain. Bonne soirée à tous.
Et c'était quoi ? L'apérophonie ! Ouais, mais c'était quoi ? L'apérophonie ! C'est quoi ? L'apérophonie !
Quoi ?
Sur Campus Grenoble !
Sur quoi ?
Sur le 90.8 !
Ah, sur Campus Grenoble 90.8.
Oui.